Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hello, vous écoutez Salut ça va,
le podcast qui veut briser les tabous autour de la santé mentale et vous donner des clés pour prendre soin de vous autrement.
Pour aller plus loin, on vous propose désormais un programme de coaching en ligne complet qui met en application des outils concrets et validés.
Rendez-vous sur techcare.co.
Bonne écoute. Épisode solo, entretenir sa relation de couple. Hello à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Salut ça va, je vous prends au saut du lit, j'ai ma voix du matin. Je pense que vous allez l'entendre. J'espère que ça ne va pas vous rendormir en ce lundi matin si vous écoutez l'épisode à la sortie. Mais écoutez, je suis motivée à vous parler de ce sujet aujourd'hui. Il faut croire que je me suis levée avec l'idée que j'avais envie de vous parler du couple et de comment entretenir sa relation de couple. Vaste sujet, je sais que le premier épisode sur le couple vous avait beaucoup plu. Et du coup, c'est vrai que je me suis dit que le sujet pouvait être peut-être étendu au fait que la communication dans le couple, c'était un pilier hyper important, mais qu'il y avait d'autres piliers qui permettaient d'entretenir une relation de couple. Alors attention, dès le début de cet épisode, c'est très important pour moi de vous dire qu'il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire en couple. Toutes les relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses, n'ont pas de règles de bon fonctionnement à partir du moment où vous êtes OK avec ce qui se passe dans votre couple, à partir du moment où le consentement et votre intégrité physique et morale est respecté. C'est votre couple, c'est vos règles, c'est votre façon de faire. Et je vais uniquement vous parler de mon expérience. Peut-être que certaines choses résonneront en vous, peut-être que d'autres pas du tout, et c'est totalement ok. Il n'y a pas de comparaison à avoir, et on a souvent entendu des règles très générales sur le couple, avec des espèces d'injonctions par rapport à beaucoup de choses, et j'ai envie de voilà qu'on se détache de ça, et bien se rappeler qu'en couple, la seule règle, c'est qu'il n'y a pas de règle, au même titre que dans beaucoup de relations. On est parti du coup pour que je vous partage les petites choses qui nous permettent au quotidien avec Samuel depuis maintenant presque 12 ans, hein, ça fera 12 ans en octobre, le temps passe extrêmement vite, ça nous permet depuis 12 ans de continuer à s'aimer, mais au-delà de l'amour, à entretenir cette complicité et je dirais même cette amitié et ce lien qu'il y a entre nous. Donc j'ai noté 18 choses. C'est un joli chiffre, c'est un peu mon chiffre porte-bonheur, donc je sais pas, il y a eu un truc là, mais peut-être que vous aurez d'autres choses, vous, à rajouter par rapport à votre expérience, et je serais ravie qu'on échange sur le sujet, parce que je vous partage mon vécu, mais encore une fois, ce n'est que ma façon de voir les choses, et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir échanger sur le vécu de chacun, et surtout les petites spécificités qui font qu'on a tous nos différences dans ces relations. Et c'est ce qui rend le monde plus riche. On voit bien que de plus en plus, on assume des couples qui sortent du schéma hétéronormé, patriarcal, qu'on a l'impression d'avoir toujours connu, et que finalement on a toujours connu hein, dans les représentations populaires, que ce soit les films, les livres, etc. Et même dans la société en général. Et je trouve que c'est une très belle chose, parce que ça permet aussi d'exister en tant que couple au-delà de ce qu'on attend de nous, et se détacher de ce qu'on doit faire pour faire ce qu'on a envie de faire et d'être, au-delà du fait de faire, c'est d'être, voilà. C'est une belle chose, et philosophiquement, je sais pas, ça m'encourage à dire que ça permettra peut-être à nos enfants et aux enfants de nos enfants et aux enfants de nos enfants de nos enfants de vivre leur amour et leur relation de façon plus libre et heureuse. Voilà, ça c'était pour le petit mot inspiration du matin. Écoutez, enregistrer des podcasts le matin m'inspire, je ne sais pas. Bon, on attaque tout de suite avec la première chose que j'ai notée qui me paraissait hyper important et qu'on a compris assez tard dans notre couple, c'est la gratitude. Le fait d'exprimer à l'autre la gratitude sur des petites choses du quotidien. Parce qu'on est reconnaissant l'un envers l'autre au quotidien, que ce soit pour les attentions, pour les petites... les petits gestes d'amour, les petits comportements qui sont intégrés en fait et qu'on ne remarque parfois plus, mais qui peuvent être gestes et des attentions extrêmement valorisantes, que ce soit pour la relation ou pour l'autre, et qui expriment un amour d'une certaine façon. Il y a, on le sait, des langages de l'amour qui ont été identifiés, et dans ces langages de l'amour, il y a le langage aussi du fait de des attentions, des petits actes, du fait de faire, d'être dans l'action, de montrer son amour par le fait de faire des choses pour l'autre, de penser à l'autre. Et je pense que la gratitude, d'exprimer justement sa reconnaissance par rapport à tout ça, ça fait partie des petites choses qui entretiennent l'envie de toujours nourrir justement ces petites attentions, d'y être attentif. Et je crois que pendant un temps, on avait tellement intégré certaines choses qu'on ne se faisait plus de remerciements sincères par rapport à justement les petites choses du quotidien. Et on attendait les grands événements et les grosses démonstrations pour se remercier. Alors qu'en réalité, on se rendait compte que quand on en discutait, ce qui comptait pour nous, c'était justement ces petites choses. Je sais que Samuel, quand je rentre du travail, il me sert souvent un verre de Coca Zéro, oui, parce que je suis accro au Coca Zéro, mais ça c'est un autre sujet, avec des glaçons et une tranche de citron, parce qu'il sait que c'est comme ça que je le bois. Et c'est des petites choses quotidiennes qui, en fait, sont tellement plaisantes de dire, ben voilà, je pense à toi au point où chaque jour, je sais que ça va te faire plaisir. Et ça te permettra, en rentrant du travail, d'avoir ce petit sas de décompression et qu'on se retrouve autour d'un verre, d'un petit apéro. Ou alors, je sais qu'en hiver, il me glisse toujours une bouillotte dans le lit, même quand je rentre tard, et qu'il se couche avant moi. Et du coup, je retrouve mon lit avec une bouillotte et parce qu'il sait que j'ai tout le temps froid. Et en fait, c'est cette connaissance des habitudes de l'autre qui pourrait être faite et réalisée par vous-même. Je pourrais très bien, en rentrant du travail, me servir un verre de coca. Je pourrais très bien me faire chauffer ma bouillotte. Mais le fait que la personne en face se dise, ben, ces petites attentions qu'elle va de toute façon faire, eh ben j'ai envie qu'elle n'ait pas à y penser, j'ai envie de lui montrer que je la connais, que je tiens à elle, que je comprends comment elle fonctionne, je comprends ses petites habitudes, j'identifie ce qu'elle aime et je lui apporte sans attente en fait, juste parce que je l'aime et que ça fait partie aussi de ma façon à moi de lui dire que je l'aime. Et être dans la gratitude par rapport à ces petites attentions, ça permet de continuer à encourager l'autre dans ses actions et à être reconnaissant, tout simplement. Et la reconnaissance, en fait, ça fait du bien, autant quand on est soi-même reconnaissant, parce que c'est aussi une façon de se rendre compte des petites choses. Quand on a un conflit, quand on a une dispute, un désaccord, se raccrocher aux petites choses qui font que dans le quotidien, ça va bien et qu'on s'aime et qu'on est heureux et que ça nous apporte de la joie et de la tendresse, etc. C'est plaisant, je trouve, pour justement passer au-delà des conflits et des disputes qui sont tout à fait normales, hein, dans un couple. La gratitude, c'est à la fois, je trouve, plaisant du côté de celui qui la reçoit, mais aussi celui qui la donne. Donc c'est un point important, en tout cas, nous, avec Sam, pour entretenir notre relation de couple, de vieux couple maintenant. On a parlé beaucoup de communication dans l'autre épisode, donc c'est vrai que je ne me suis pas forcément attardée là-dessus. Mais j'ai noté que les besoins de l'autre et le fait de les comprendre et de les exprimer. Donc, alors sur la partie expression, je pense que l'autre épisode sera beaucoup plus complet sur la communication dans le couple. Mais là, je voulais vraiment parler des besoins de l'autre et le fait que la communication peut amener aussi à exprimer ses besoins pour mieux les comprendre. Souvent, dans des désaccords, dans des conflits, il y a une incompréhension du besoin qui n'a pas été rempli pour l'autre. Ça va être un besoin de reconnaissance, un besoin de sécurité, un besoin de réassurance, un besoin de passer du temps ensemble, un besoin d'amour, un besoin de protection. Il y a une liste de besoins assez infinie. Et le fait de s'attarder sur justement ce besoin, au-delà du conflit, pas simplement dire oh « ouais, bon, ben, on n'est pas d'accord, on n'est jamais d'accord, tu fais pas d'efforts, etc. » Bon, bref, tout ce qu'on a l'habitude de se dire de façon assez automatique quelque part. Finalement, derrière, ça traduit souvent un besoin du coup qui n'est pas exprimé et qui est difficilement identifiable parce qu'on n'est pas habitué de toute façon depuis toujours à exprimer nos besoins enfants. On a souvent entendu des discours autour du caprice, autour du fait qu'on en faisait trop, qu'on était ingrat, pourri gâté, oh mais arrête de pleurer, t'es jamais content. Bon, bref, on a tous plus ou moins entendu ces petites phrases qui, petit à petit, intègrent le fait que ben, c'est les autres avant soi-même, il faut arrêter de penser à soi, il ne faut pas être dans l'égoïsme de ses ressentis. Et donc, quand on commence une relation, ou même quand on est dans une relation, peu importe le nombre d'années, de mois, de semaines, le fait d'avoir la faculté d'exprimer à l'autre son besoin et que l'autre le comprenne et ne le prenne pas pour lui ou pour elle. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que je suis en train d'exprimer que je me sens pas en sécurité ou que j'ai besoin d'être réassurée ou d'être protégée sur certaines choses ou j'ai besoin de communication, etc., que je dis à l'autre « tu es un mauvais communicant, tu ne me mets pas en sécurité, tu ne me protèges pas ». Et arriver à comprendre ce besoin au-delà même de notre propre interprétation, c'est un exercice qui n'est pas facile du tout et on en parle beaucoup dans l'autre épisode, mais qui, avec Sam, nous a permis d'aller au-delà de simplement notre ego, j'ai envie de dire, par rapport à une situation. Et pas simplement dire « Ok, là, je suis en train d'interpréter le fait que l'autre personne, enfin, mon conjoint, ma conjointe, mon partenaire, ma partenaire, m'en met en gros plein la gueule, hein, il faut le dire comme c'est, mais derrière, il y a une vraie demande et il y a une vraie insatisfaction qui n'est pas forcément de ma responsabilité, mais que je suis en capacité au moins d'écouter et d'entendre. Et cette compréhension-là, elle permet réellement, en tout cas nous, elle nous a permis réellement d'aller dans la résolution de conflits, au-delà de la discussion et dans le sens, pas dans la communication, parce que la communication, ça a été notre base, mais au-delà de la résolution de conflits et de la confrontation d'idées, en fait, on est passé au stade de compréhension du besoin de l'autre. Et passer ce stade-là, ça nous a permis réellement de faire avancer les choses. C'est-à-dire que souvent, on se rendait compte que nos points de discorde, de dispute, etc., étaient répétitifs. C'est-à-dire que globalement, même si ce n'était pas sur exactement les mêmes sujets, c'était très fréquent que ce soit autour des mêmes mécanismes, autour des mêmes besoins qui n'étaient pas remplis, autour des mêmes demandes. Et en réalité, ne pas simplement régler le conflit ponctuel, mais de vraiment comprendre nos besoins, les écouter et s'adapter, faire des ajustements autour de ça, ça nous a permis de faire avancer notre couple en globalité et faire en sorte que ces répétitions justement de conflits s'atténuent et se rarifient quelque part parce que la compréhension du besoin était assimilée et du coup bah, tout ce qui cohabitait ou tout ce qui gravitait autour de ce besoin-là et des conflits qui étaient bah, en interaction avec ce besoin, petit à petit devenait de moins en moins fréquent. Et c'est ce qui faisait avancer finalement notre couple et notre relation et notre amour. Et voilà, ça a été une nuance importante pour nous, de fait de ne plus passer simplement à la résolution de conflits, mais de passer aussi à la prise en compte des besoins de l'autre, et autant du côté de l'écoute que de la compréhension, et ensuite des actions qui peuvent être mises en place par derrière. Il va falloir que j'accélère parce que je suis qu'à mon point numéro 2 et j'en ai 18. Bon, le troisième point, c'est les limites. C'est quelque chose qu'on avait déjà évoqué, nous, avec Samuel, dès le début de notre relation. On parlait beaucoup de nos limites par rapport notamment aux autres, aux relations extérieures, parce que ça a été important pour nous de définir ce qui était OK et pas OK pour chacun d'entre nous par rapport aux autres, que ce soit les autres dans le côté relation extérieure, mais aussi les autres dans le sens quel est le temps qu'on accorde à notre couple, quel est le temps qu'on s'accorde personnellement, quel est le temps qu'on s'accorde avec nos familles, avec nos amis, etc. Et par la suite, on est venu à établir nos limites par rapport à d'autres sujets, par rapport à notre parentalité, par rapport à notre travail. Voilà. Et en fait, ces discussions-là, encore une fois, hein, on rejoint la communication de toute façon, elles ont permis aussi de faire avancer la compréhension des besoins. Je pense que ça, c'est étroitement lié. Mais d'accepter le fait que c'est pas parce qu'on est en couple qu'on doit tout accepter l'un de l'autre. Et autant dans la vie sociale, que ce soit avec vos amis, votre famille, votre patron, relations professionnelles, votre travail, si vous êtes indépendant, peu importe, établir des limites, on en a fait tout un épisode, c'est nécessaire pour soi, pour savoir à quel point et quand est-ce que vous allez dans la direction qui vous convient en fonction de vos besoins, en fonction de vos ressentis, en fonction de ce que vous êtes prêt à accepter ou non. Ces limites, elles sont nécessaires. Donc ça participe à une certaine forme de santé mentale aussi et ça s'applique aussi au couple. On parle souvent des limites quand il s'agit de limites liées à la jalousie, à la tromperie, à tout ça. Mais avant tout ça, il y a beaucoup de limites qu'on peut délimiter et poser dans son couple, que ce soit sur nos envies communes, nos envies personnelles, le temps qu'on a envie de passer ensemble, la relation et l'intimité de ce qu'on partage aussi avec nos familles respectives. Voilà, il y a plein de paramètres qui nous semblaient importants de définir. Et ça s'est pas fait autour d'une table avec un papier et un crayon, hein. Ça a été beaucoup plus fluide que ça dans notre relation, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on s'est dit que c'était un sujet qu'on avait envie d'aborder d'une certaine façon, plus simplement, et s'autoriser parfois à dire « en fait là je sens que j'ai dit oui, j'ai toujours dit oui, mais en fait ça me convient pas, et donc là j'aimerais rétablir en fait ce qui serait acceptable pour moi, est-ce qu'on peut en discuter ?» Et ces discussions-là, toujours, hein, on repart sur la communication, elles ont permis en fait de parfois débloquer des petits points qui étaient acquis entre guillemets depuis toujours et qu'on a restatué, on a resitué. Ça s'est joué pour nous dans l'intimité notamment, et comment est-ce qu'on exprimait à l'autre qu'on avait envie de passer un moment plus intime. Il y a eu des discussions autour de ça qui ont été tardives entre guillemets par rapport à la longévité de notre couple, mais qui se sont posées à un moment donné et qui nous ont permis d'établir des limites hyper clair et en fait vachement nécessaire, autant d'un côté comme de l'autre, et également sur des habits.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Du quotidien, notamment par rapport au fait qu'on ne dort pas ensemble, ces discussions-là, par rapport à cette indépendance, etc. Donc, voilà, les limites, elles ont eu un rôle à un moment donné, et je pense qu'elles en ont... toujours, elles en auront. Je pense qu'elles en auront toujours, et c'est important de les inclure pour nous, en tout cas avec Sam, dans nos discussions et dans ce qu'on accepte ou pas. Dans ce qu'on s'accorde aussi à soi, parce que dans un couple, on n'est pas simplement deux en fait. Enfin, on ne forme pas qu'un. On est avant tout justement deux unités qui décident de partager. Un bout de chemin ensemble, et nos limites personnelles sont entendables et acceptables et légitimes. Voilà. Un point qui est important pour nous, mais je dis bien pour nous, avec Samuel, c'est cultiver notre indépendance. Ça a été souvent assez questionné autour de nous, et notamment par nos proches, nos familles, etc. Le fait qu'on ait vraiment cette capacité à faire des choses seules, et au-delà de la capacité à le faire, l'envie de le faire. On est extrêmement différents avec Samuel sur plein de points. Et je pense que c'est important de le dire parce qu'on a souvent cette tendance à croire qu'on est en couple qu'avec des gens qui nous ressemblent, qu'avec des gens qui partagent nos passions, qu'avec des gens qui aiment les mêmes choses. Et je pense que ce n'est pas vrai et que c'est totalement OK d'être différent sur beaucoup de choses. Nous, c'est le cas avec Samuel. On est extrêmement différents sur beaucoup de points liés à nos aspirations et à nos goûts. Mais on se rejoint sur des valeurs profondes de la vie et voilà, dans le côté philosophique de ce que chacun pense de la vie, de l'amour, de l'amitié, du travail, de la parentalité, etc. Là-dessus, on a des bases très solides, mais sur plein d'autres choses, sur nos fonctionnements, sur nos goûts, etc., on est très différents. Et avec les années, on se ressemble de plus en plus sur pas mal de points. Mais c'est un autre sujet. Toujours est-il que pour nous, cultiver l'indépendance, c'est extrêmement important d'avoir des moments où on peut pratiquer nos activités, nos passe-temps, nos loisirs en solo et qu'on n'est pas dans la culpabilité de le faire sans l'autre. Samuel, il adore la randonnée, il part tous les ans randonner, il adore la montagne et plus particulièrement un endroit en montagne qui s'appelle Aussois, qu'il connaît depuis toujours puisqu'il y va depuis tout petit, et donc c'est un endroit qui est très important pour lui. et il a besoin d'y aller chaque année. Moi, c'est pas un endroit que j'apprécie particulièrement. J'aime bien la montagne, mais cet endroit en particulier là n'est pas quelque chose qui me plaît particulièrement. Et je sais que c'est hyper important pour lui d'y aller. Je sais que c'est hyper important pour lui d'y aller avec Gaspard. Je sais que tous ses frères y vont, son père aussi. Et donc, il y a ce côté-là de rituel, etc., que je respecte totalement. Et en fait, c'est OK pour lui d'y aller seul. C'est OK pour lui de partir en trek seul. Au contraire, il aime ces moments-là d'indépendance. Il aime aussi partir avec ses frères. Il aime partir à la montagne, donc dans ce centre à Aussois. Et chaque année, il le fait. Et aussi bien de mon côté, j'aime bien partir avec ma maman. On se fait souvent des séjours toutes les deux. J'aime bien partir en solo aussi. J'ai besoin d'avoir des moments solo, notamment pour ma créativité. C'est important. J'ai besoin de ces moments où je peux faire uniquement du batching de projets et de bosser sur mon ordi, sur des carnets. Enfin bon, bref, ça c'est, c'est un peu mon trek à moi. Voilà, hein, on a chacun nos trucs. Mais toujours est-il qu'on est vachement dans ce respect en fait du fait qu'on ne partage pas cet amour pour, personnellement, moi pour la randonnée et lui pour le côté forcément très créativité, etc. Et se dégager du temps seul pour pouvoir exercer ce moment-là sans la culpabilité de se dire oh, on n'est pas ensemble. Voilà, on a ce truc de. Moi, ça m'arrive de partir avec Gaspard, par exemple, chez mes parents. Et inversement, lui, il part chez sa maman en Suisse. Et en fait, c'est OK. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas tout le temps ensemble qu'il y a moins d'amour, qu'il y a moins de choses à partager. Encore une fois, le couple n'a pas de bonne façon de fonctionner. À partir du moment où vous, ça vous convient à tous les deux et que vous êtes totalement OK avec ce qui se passe, c'est le plus important. Et je crois que ça a permis dans ces dernières années de déculpabiliser en fait et de dédramatiser justement tout ça et d'accepter le fait que c'était totalement OK pour nous et qu'on en avait besoin. Voilà. J'ai noté aussi un truc qui a été important ces dernières années, c'est le travail sur soi. Alors ça, c'est une grande expression du dev perso, travailler sur soi-même. Mais au-delà des injonctions liées au développement personnel, voilà, qu'ici, on ne partage pas forcément. Mais au-delà de cette notion de travail sur soi, on a la connaissance de soi, dont on parle pas mal sur Take Care et qui me semble importante. Parce que quand on apprend à expérimenter, à connaître ses goûts, à se poser des questions, etc., je trouve que c'est beaucoup plus facile ensuite de connaître nos limites, de s'affirmer par rapport à nos goûts, à nos valeurs, à ce qui fait sens pour nous, à nos combats, à beaucoup de choses qui rendent légitimes nos choix et finalement ce vers quoi on a envie de tendre et d'aller. Donc travailler sur soi dans le sens connaissance de soi individuellement du couple en fait, ça fait partie des choses qui ont été importantes pour Samuel et moi. On a tous les deux été en thérapie ces dernières années, autant ensemble mais aussi individuellement pour des problématiques complètement différentes et on se rend compte que ça a un impact forcément dans notre couple, dans nos relations à l'autre, etc. Parce que quand on est personnellement en travail sur des schémas de fonctionnement, sur des habitudes qui ont pu à un moment donné nous questionner, et ben ça a un retentissement de façon naturelle quelque part en ricochet sur nos différents domaines de vie dont le couple et je pense que ça nous a fait beaucoup de bien. Encore une fois, expérience personnelle, hein, bien sûr, et il n'est pas nécessaire d'aller en thérapie pour que votre couple se passe bien, loin de là. Mais c'est vrai que nous, ça a permis d'entretenir notre relation et d'apporter un peu plus de sérénité personnelle et du coup, de la sérénité ensemble. Bon, alors celui-là est peut-être un peu bateau, mais je le passe rapidement. Justement, passer du temps de qualité ensemble, le fait d'avoir instauré des moments où on était sans nos téléphones, ça c'est important, de les sortir de la pièce, voilà, de vraiment poser nos téléphones avant de rentrer dans la chambre. On le fait de temps en temps, pas tout le temps, pas ce mytho, mais ça nous a permis de vraiment avoir des discussions. Et en fait, avec Samuel, on adore parler ensemble, on adore bavarder ensemble. Samuel, en plus, est un homme qui parle beaucoup, et j'apprécie ça parce que ça donne lieu à des discussions hyper intéressante, amicale en fait. On partage cette amitié profonde et ces discussions-là, elles sont hyper enrichissantes et le fait de s'accorder du temps pour passer ces moments ensemble de qualité, c'est pas des grands dates, c'est pas des trucs incroyables, voilà, mais il y a vraiment cette notion de qualité et je pense que ça c'est quelque chose qui est assez nouveau pour nous, ces dernières années de se dire c'est pas grave si on n'arrive pas à tenir le fait de faire un restaurant par semaine, un ciné par semaine, etc. Si au quotidien on se trouve des petits moments de qualité ensemble, de partage, où on est dans l'écoute, on est dans une forme d'écoute active, on n'est pas forcément très passionné par des sujets hyper originaux, etc. Ça peut être sur des petites choses de la vie, mais d'avoir cette, ce moment d'écoute, cette attention à l'autre de qualité. Ouais, c'est hyper important et c'est hyper enrichissant en fait. Et ça va avec cette idée de communication hein, dont on parlait dans l'autre épisode. Et le fait d'être dans une communication ouverte et honnête, ça c'est un point que j'ai noté. Le côté honnête et ne pas avoir peur d'exprimer ses ressentis en fonction des réactions de l'autre. C'est toujours complexe parce que parfois on s'interdit de dire des choses ou de ressentir parce qu'on est, on n'a pas envie de rentrer dans un conflit et qu'on se dit que l'autre va pas comprendre le réel besoin, etc. Et justement, passer par cette communication de communication active et d'écoute surtout, ça nous a permis de parfois exprimer des choses et de dire bah voilà, je suis gênée à l'idée de l'exprimer ou j'ai peur de ta réaction par rapport à un sujet que j'ai envie d'aborder, mais c'est important pour moi de le dire, et que l'autre soit en capacité de l'écouter, de le comprendre. Ça nous a beaucoup fait avancer sur pas mal de sujets. Je pense qu'on va pas faire les 18 points, les amis. Je vais prendre ceux qui me paraissent les plus importants, sinon je vais vous garder avec moi pendant des heures. Je sais que votre temps est précieux. Donc dans ce qui me paraît important et que j'ai pu noter, ça va être sur respecter les différences de l'autre et ne pas vouloir se changer. Quand on aime quelqu'un, quand on est dans une relation, on a bien sûr l'admiration qu'on peut porter à l'autre, à qui il est, à qui elle est, voilà. Mais on a aussi nos propres petits fonctionnements et c'est très tentant de vouloir appliquer ces fonctionnements à l'autre et de se dire mais c'est évident que la façon dont je m'occupe de telle chose, c'est mieux. Donc pourquoi est-ce que tu veux pas faire comme je fais ? Parce que c'est tellement plus simple et moi ça me paraît tellement plus évident. Et de pas être dans justement cette volonté de calquer sa façon de faire sur l'autre, c'est quelque chose qui a été pour nous difficile parfois, surtout dans le quotidien, les petites tâches quotidiennes. On a tous un peu notre façon de fonctionner et de discuter ouvertement par rapport à ça et de trouver des compromis. Ça veut pas dire que encore une fois on ne peut pas fonctionner ensemble, parce que je pense que justement fonctionner ensemble c'est aussi trouver un terrain d'entente sur nos différences et nos fonctionnements quand il s'agit du quotidien, de la charge mentale notamment. Sinon vous avez vite fait de prendre à votre charge beaucoup de choses en vous disant ce sera mieux fait par moi-même. Ça c'est un peu le sujet que j'abordais dans l'exigence, et l'idée justement pour lutter contre cette exigence permanente et l'idée de se dire je vais prendre en charge parce que ce sera mieux fait par moi et cette charge mentale du coup qui incombe souvent les femmes, hein, il faut le dire, et justement de trouver ce terrain d'entente en se disant ok, peut-être que ça ne fonctionnera pas exactement comme je le souhaite, mais trouver un fonctionnement qui permet à l'autre de s'impliquer de manière égale, et ça c'est hyper importante, dans un cercle, une sphère qui est ok pour nous deux et dans une compréhension commune des besoins et des attentes de l'autre en fonction des fonctionnements et des attentes de chacun. C'est ce point en fait de bascule, d'équilibre quelque part entre nos façons de fonctionner, nos attentes, nos besoins et justement la tâche qui doit être réalisée ou les choses qui doivent être mises en place au quotidien. On peut parler de projets de voyage, de vacances, d'organisation, mais aussi de petites tâches du quotidien, vider de la vaisselle, sortir les poubelles, la façon dont on range le frigo, etc. Et qui sont en fait parfois anecdotiques, mais qui font partie du quotidien et qui deviennent assez importants dans la vie de tous les jours, on se sait, sur les petites choses de la vie. Et ça, ça a été important pour nous à un moment donné de trouver ce point d'équilibre. Je regarde mes petites notes et je me rends compte que dans les derniers points que j'ai pas abordés, y a un élément un peu commun qui est d'être dans le soutien de l'autre dans ses objectifs, le fait de bien sûr traverser les obstacles, etc. à deux, bien sûr, ça a été toujours quelque chose d'important pour nous, mais globalement le fait de soutenir l'autre dans ses aspirations, dans ses projets, et d'être dans une écoute et un soutien qui n'est pas celui de « Ah, je vais te conseiller » ou « Je vais te dire comment faire » ou « Je vais t'apporter mes idées », mais d'être aussi dans un soutien quelque part passif. Alors, je ne sais pas comment on pourrait réellement appeler ça, parce que ce ne serait pas vraiment passif, ce serait plutôt actif, mais sans être dans l'action, voilà. Et l'écoute active, encore une fois, je pense que c'est intéressant si le sujet vous interpelle d'aller vous renseigner sur l'écoute active, parce que c'est une notion qui est hyper intéressante à mon sens. Mais cette écoute active permet, je trouve, d'avoir ce soutien qui est inconditionnel et qui n'est pas dans l'idée de devoir imposer notre façon de voir les choses ou encore une fois d'intervenir dans le projet de l'autre, mais simplement d'être là au besoin et d'être là en soutien inconditionnel quelque part, mais silencieux aussi parfois. Et ça, c'est quelque chose qu'on a eu du mal à faire avec Samuel pendant longtemps, de pas simplement être dans le truc de « Oh là là, mais j'ai envie de te dire ce que je pense du projet et de te donner des idées et moi aussi d'y participer d'une certaine façon », mais simplement de dire « Waouh, c'est trop cool que tu penses à ça, que tu sois investi de cette envie de mettre en place quelque chose de nouveau dans ta vie, d'intégrer une nouvelle activité, une nouvelle connaissance, de te former sur quelque chose, peu importe la forme que ça prend, mais simplement d'être là et de dire « Je trouve ça génial et si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là », mais de pas forcément intervenir, voilà, de pas être dans l'intervention en fait. Et de laisser la place à l'autre de vivre cette aventure comme il l'entend et d'être simplement un compagnon et pas forcément un partenaire dans le sens collaborateur. Voilà. Et c'est encore une fois très propre à notre relation, mais ça nous a permis aussi de prendre confiance dans nos propres aspirations et dans nos propres capacités à évoluer dans un projet en solo. Et c'est un point qui a été identifié lors de discussions avec Samuel et on se disait que ces dernières années, c'est quelque chose qu'on avait beaucoup cultivé chez nous et qui nous avait fait du bien aussi dans notre capacité à prendre confiance et à notre estime de nous et à savoir qu'on était toujours là l'un pour l'autre, mais qu'on n'avait pas forcément l'obligation de devoir intervenir. C'est une belle preuve, je trouve, d'amour, d'amitié, d'attention. Et de se détacher de nous-mêmes en fait, de soi et de notre ego, notre façon de faire et de juste accepter l'autre dans ce qu'il est en train d'entreprendre et avec tout l'amour et la compassion et l'admiration qu'on lui porte sans être dans ce côté d'intervention. Voilà, et je vais terminer là-dessus. De toute façon, je pense que je vous mettrai les différents points que j'avais notés sur le compte Insta Take Care parce que peut-être que ça vous fera réagir d'une certaine façon, que vous aurez envie de partager aussi vos petites particularités dans vos relations de couple et ce qui vous permet d'entretenir justement cet amour et ce lien en tout cas. J'espère que cet épisode vous aura plu, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, de parler de ce sujet, ça me met le sourire pour la journée, j'espère que ce sera le cas pour vous. N'oubliez pas, en couple, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de bonne façon de faire et à partir du moment où il y a du consentement, il y a le respect de votre intégrité physique et morale, peu importe ce que vous avez envie de mettre en place dans votre couple, peu importe votre façon de fonctionner, peu importe comment vous avez décidé de vivre les choses et comment vous avez envie de nourrir votre relation, c'est ok et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire et c'est important de le rappeler. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prenez bien soin de vous.
Merci d'avoir écouté le podcast.
Retrouvez-nous sur Instagram pour continuer à partager ensemble du contenu inspirant et éclairé
ou tout de suite via notre programme de coaching sur programme.takecare.co.
À la semaine prochaine.
This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.